C'est le début aujourd'hui de longs mois de galère pour les automobilistes à Nantes. Le pont Anne de Bretagne est désormais fermé pour franchir la Loire entre le centre-ville et l'île de Nantes au niveau des machines. Même chose pour le boulevard Léon Bureau qui longe les nefs et ça va durer un an. C'est en fait le début de l'énorme chantier pour transformer ce pont Anne de Bretagne en plateforme de plus de 50 mètres de large pour notamment y faire passer le tramway. Alors, donc, de grosses conséquences pour les voitures, les camions, les motos. Et vous avez regardé Leïla Mechaouri, c'est quoi les alternatives pendant cette première partie des travaux?
On pourra rejoindre le centre de Nantes par le sud via la route de Pornic, les ponts des Trois Continents ou de Pierre-Mille, puis les ponts d'Audine ou Audibert. Et si on arrive du nord-ouest de Nantes, là c'est plus complexe, il faudra emprunter des grands axes pour contourner le centre, puis rejoindre la rue Bellamy vers le sud. Pendant toute la durée des travaux, le parking Wilson à l'extrémité ouest de l'île de Nantes sera gratuit et les parkings relais de l'ouest de la ville proposeront plus de places d'ici la fin de l'année. En parallèle, la métropole gonfle son offre de transport en commun. Près de 30 000 places supplémentaires sur la ligne 1 du tramway avec l'arrivée de nouvelles rames. Et puis à la rentrée de septembre, les lignes express E1 et E8 et le bus 98 seront renforcées. Quant au Navibus, ce sera des navettes toutes les 10 minutes jusqu'à 22h.
Et pour inciter ceux qui voudraient profiter de cette période de travaux pour laisser la voiture et passer peut-être au transport en commun, Naoli propose un mois d'abonnement gratuit.
Et vous pouvez retrouver toutes ces infos sur francebleu.fr à la page Loire aussi, avec notamment une carte pour les nouveaux itinéraires en voiture.
Ce sont quatre ministres et secrétaires d'État qui se déplacent à Nice ce matin, notamment le Premier ministre et celui de la Justice. Ils veulent illustrer sur le terrain ce que Gabriel Attal a annoncé la semaine dernière pour lutter contre la violence chez les jeunes. Ils vont donc dans un lycée dont l'internat est ouvert pendant les vacances et où une vingtaine de jeunes qui décrochent à l'école vont être accueillis et accompagnés avant qu'il ne soit trop tard. Tout semblait pourtant avoir été bien vérifié à la fête foraine de Blois avec des contrôles renforcé des attractions. Et pourtant, une jeune femme de 27 ans est morte ce week-end après un accident sur un manège à sensations. Adrien Bossard.
Vers 23h, la jeune femme est éjectée de son siège sur un manège NFL du nom de la Ligue de football américain et de type flipper, c'est-à-dire qui tourne sur lui-même comme une centrifugeuse. La barrière se serait ouverte pour une raison encore inconnue. Consciente à l'arrivée des secours, la victime est rapidement prise en charge, puis transportée à l'hôpital où elle décédera dans la nuit des suites de ses blessures. C'est la première fois que cette attraction est installée à Blois pour la fête foraine. En plus des documents administratifs qui attestent qu'elle passe tous les contrôles d'usage, un cabinet extérieur mandaté par la mairie est venu vérifier la conformité de toutes les installations, dont celle-ci, peut-être pas dans leur globalité, mais à minima des assises, alors que la municipalité, précise-t-elle, n'est pas obligée de le faire. Depuis le drame, le propriétaire du manège est en garde à vue, l'attraction placée sous scellé par la procureure de la République de Blois, qui ouvre une enquête pour homicide involontaire.
Et après la mort de cette jeune femme de 27 ans, la fête foraine de Blois est restée fermée hier. C'était de toute façon le dernier jour. Un homme a été gravement brûlé au visage et aux mains à Venanceau, près de La Roche-sur-Yon. La remorque de son camping-car, où il y avait notamment une batterie, a pris feu et elle a explosé.
Le bureau de poste du quartier du Preux ne devrait pas rouvrir, pas à Saint-Herblain en tous les cas.
Ouais, c'est celui qui a été détruit par un incendie lors des violences urbaines de l'été dernier, après la mort de Naël, tué par un policier en région parisienne. Et les habitants viennent d'apprendre que la direction de la poste a décidé donc de ne pas le remettre en état et ils se sentent abandonnés. Thomas Bonnet.
Assise à une table de pique-nique, Nala, 36 ans, est résignée.
Là, j'ai recommandé, ça va faire 2 semaines. Normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour, je ne suis pas allée parce que je n'ai pas envie de prendre jusqu'à là-bas. Tant pis.
Le bureau de poste le plus proche est désormais à 25 minutes à pied, de quoi bouleverser son quotidien.
Normalement, si je dépose les enfants, il va chercher mes affaires, on va dire commander ou n'importe quoi. Et je retire l'argent là-bas, c'est juste à côté de chez moi.
Maïwenn aussi regrettera son bureau de poste. Aujourd'hui, elle est amère.
Reconstruire, voilà, c'est de l'argent dépensé. Je pense qu'il aurait fallu déjà qu'elle ne crame pas, ça aurait été beaucoup mieux.
La situation dure depuis presque un an et le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé, ne cache pas son agacement.
Il y a beaucoup de personnes âgées, des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui sont en fragilité sociale, en précarité, qui ont besoin du service postal, qui ont besoin de la banque postale. C'est quasiment l'équivalent d'une petite commune qui se trouve privée de services postaux, ce qui n'est absolument pas normal.
À la poste, on répond qu'une fermeture était déjà envisagée avant l'incendie en raison d'une baisse de fréquentation. Le maire lui, ne lâche pas l'affaire. Il prépare un rassemblement avec les habitants.
Du quartier du Preux, donc, à Saint-Herblain. Au Sable-d'Olonne, la mairie lance en urgence un plan de sauvetage pour la tour d'Arundel, cette tour carrée en pierre qui domine le chenal. Elle a été mal entretenue, elle se fissure, l'eau s'infiltre par la toiture. Le chantier devrait coûter 1,5 million d'euros pour remettre en état ce bâtiment emblématique des Sables qui sert toujours de phare.
Le FC Nantes n'a plus que 3 points d'avance sur la place de barragiste ce matin.
Oui, parce que Metz est allé gagner au Havre. En revanche, les Canaries restent 14e au classement de la Ligue 1. En tête, Monaco bat Brest 2-0 et s'empare de la 2e place. Les Corsaires de Nantes sont eux sacrés champions de France de D1, en fait l'équivalent de la 2e division de hockey sur glace. Ils sont venus à bout de Chambéry en finale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont monter en Ligue Magnus, la première division. Et là, c'est pour une histoire de finances.